Radio Okapi.
Le journal Pierrot et la Mégie.
Mesdames, Messieurs, voici les titres de votre journal. La maladie à virus Ebola tue une deuxième personne dans la zone de santé de Biéna dans le territoire de Lubero. La malade, une dame de 60 ans, est décédée hier mercredi à Masoya où était signalé le premier cas. Une situation qui panique la population locale. Deux personnes ont été tuées et une autre blessée. Plusieurs biens de valeur emportés hier. C'est le bilan de l'incursion des bandits armés au village Lindji dans les territoires de Djougou à Nitouri. La société civile qui hausse les tons plaide également pour la sécurisation de la population dans cette zone. Madame Thérèse Isaï Kirongozi, inventrice du robot roulage érigé dans certains carrefours routiers de Kinshasa, sera avec nous avant la fin de ce journal. Elle appelle les jeunes filles à embrasser les filières des sciences et des technologies tout en exhortant le gouvernement à les y aider. Elle est l'invitée de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous à ce journal mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Au Nord Kivu, un deuxième cas de la maladie à virus Ebola est enregistré dans la zone de santé de Biéna, territoire de Lubero. La malade, une dame de 60 ans, est décédée hier mercredi à Masoya, où était signalé le premier cas, annonce le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu. Cette autorité affirme que le listage des contacts de ces deuxièmes cas est en cours. Le fonctionnaire délégué du gouverneur dans cette région indique pour sa part que la population locale vit en ces moments dans une grande crainte. Grâce à Hamzati pour les détails.
Cette deuxième malade d'Ebola est une cultivatrice de 60 ans qui a rendu l'âme mercredi dernier dans la localité de Ngoubi, située à 4 km de Masoya, où les tout premiers cas avaient été notifiés. D'après le ministre provincial de la Santé, cette dame a également fréquenté les postes de santé de Ngoubi où avait transité la première victime. Cependant, Dr Nzanzu Salita indique que les investigations sont en cours pour déterminer si cette nouvelle malade a été contaminée par la précédente ou bien s'il s'agit d'un autre cas venu d'ailleurs. Le ministre provincial de la Santé affirme que le corps de la malade a été manipulé par les membres de la communauté avant son enterrement, ce qui constitue d'après lui un grand danger de propagation de l'épidémie dans la région. Il appelle ainsi la communauté à la conscience face à cette menace sanitaire. Cette autorité provinciale indique que le listage des contacts de ces deuxièmes cas est en cours et annonce en même temps la vaccination de tous les contacts déjà enregistrés et même de tous ceux-là qui n'ont pas encore été vaccinés car le vaccin est arrivé à Butembo mercredi dernier. De son côté, le fonctionnaire délégué du gouverneur dans la zone de santé de Biéna, Mongama Banga Gilio, indique que ces situations créent déjà de la panique et de la frustration parmi les habitants de cette région. Butembo, grâce à Hamzati. Radio Kapi.
Nous restons à Butembo pour parler de plus de 100 contacts du nouveau cas d'Ebola qui ont été identifiés dans les environs. C'est le ministre provincial de la Santé qui l'a annoncé ce mercredi lors d'un point de presse tenu à Butembo. Il indique que ces contacts sont en cours de suivi et appelle les autres personnes ayant été en contact avec la victime à se manifester. Docteur Nzanzu Salita appelle également la communauté à ne pas céder aux rumeurs à intoxication pour ne pas revivre la situation tragique de la 10e épidémie dans la région. On l'écoute au micro des Grâces Hamzati.
Nous avons déjà listé 161 contacts dans les deux zones de santé, à Biéna et à Katwa, mais il y a aussi certains contacts en zone de santé de Butembo qui sont en train d'être suivis. Mais nous avons aussi d'autres contacts que nous n'avons pas encore vus, notamment le motard qui l'a transporté de Masoya jusqu'à Butembo. Il y a un garde malade que nous n'avons pas encore vu. Nous avons pris un échantillon que nous avons envoyé à Goma et à Kinshasa dans nos laboratoires INRB pour qu'un séquençage soit fait. Le séquençage va nous permettre de dire ce virus qu'on a identifié, est-ce qu'il est parmi les autres qu'on avait déjà identifié ici avant ou qu'il s'agit d'un nouveau variant. Alors nous faisons un appel à la communauté de ne pas céder aux rumeurs parce qu'il y en a déjà qui courent dans tous les sens. Surtout que vous savez que les rumeurs là ont été les premières à nous mettre mal à l'aise à Butembo où certains qui ne sont pas du domaine se mettent à déclarer des choses pour désorienter la population. Et vous savez ce que nous avons eu comme résultat. Nous avons connu beaucoup de décès ici à Butembo.
Notez que l'équipe des ripostes conduite par le ministre provincial de la Santé s'est rendue mardi dernier à Massoya, dans la zone de santé de Biéna, lieu de provenance de la victime. C'était dans l'objectif d'identifier ses contacts et désinfecter le centre de santé de Massoya qui avait accueilli la victime avant qu'elle ne soit transférée à Boutembo. Dans le Haut-Katanga, la morgue de l'hôpital général provincial de référence Jason Sendwe à Lubumbashi est momentanément fermé pour raison d'entretien. Les vaporateurs et les compresseurs sont en panne. Pour la plupart des personnes rencontrées, cette morgue, qui est la plus grande de la province avec une capacité d'accueil de 70 corps, nécessite de grands travaux pour répondre aux besoins de la population. Notre confrère Jean Gandou y a fait un tour et voici son reportage.
Annoncé pour bientôt par l'autorité urbaine, les travaux de réhabilitation de la morgue de l'hôpital provincial de référence d'Anton Sendwe n'ont pas encore commencé. Et pour cause, Cyril Moulagi, administrateur général de la ville de Lubumbashi.
On ne peut pas travailler pendant qu'il y a des corps, des indigents, il y a des gens qu'on a tués, dont les personnes ont été arrêtées. Il fallait que la justice se prononce sur l'état de l'enterrement de ces gens-là pour qu'on puisse dégager ces corps-là.
Sur place à la morgue, certains corps dégagent déjà des odeurs nauséabondes. Difficile de s'en approcher sans cache-nez. Pour les riverains, dont certains tiennent des restaurants de fortune, ces odeurs sont insupportables. Le président des vendeurs de cercueils estime pour sa part que cette morgue doit être démolie puis reconstruite. Muteta Fichala.
Ce qu'on est en train de faire, c'est un travail très provisoire. Pour remplacer le compresseur, ça va toujours donner une autre occasion de cet abîmé encore. Ce que nous voudrions est que la population de Lubumbashi soit consolée avec quelque chose qui peut donner une solution. Plus de fois qu'on a déjà arrangé, il faut qu'on reconstruise. C'est pour que ce soit une chambre froide qui répond aux normes. Même si on mettait les corps qui peuvent être conservés mais pendant 3, 4, 5 mois.
En attendant, la population est appelée à amener les corps dans d'autres morgues de la ville. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Comme je le disais dans les titres, deux personnes ont été tuées et une autre blessée, plusieurs biens des valeurs emportées. C'était lors de l'incursion hier des bandits armés au village Lindji, en chefferie des Baema Bagourou, dans le territoire des Djougou. D'après des sources sécuritaires, ces bandits, munis de fusils et d'armes blanches, ont tiré plusieurs coups de feu avant de commettre ces forfaits. La société civile hausse les tons et plaide pour la sécurisation de la population dans cette zone. Ezekiel Mouzalia.
C'est aux environs de 22h locales que ces bourreaux ont quadrillé la zone en tirant plusieurs coups de feu pour effrayer les habitants. Ils se sont introduits dans une habitation et ils ont tiré sur les occupants. Un homme et son épouse ont été atteints par balles et ils sont morts sur les champs. Un autre habitant a été blessé. Après avoir commis leur sale besogne, ces inciviques ont pris la direction des villages à la périphérie du centre commercial d'Iga Barrière, à 25 km de la ville de Bounia, rapporte la société civile locale. Jusqu'aux petites heures de la matinée, le corps des victimes mais gisait encore au sol en attendant les équipes de la Croix-Rouge et d'autres membres de la famille pour l'inhumation. Au cours de cette attaque, ces hommes armés ont également pillé des biens des victimes, précise des sources concordantes. La société civile locale renseigne que notre cas de meurtre a été enregistré en début de cette semaine dans la zone. Son président Gédéon Bino alerte les services de sécurité sur la circulation des personnes suspectes dans la zone. De leur côté, les autorités locales précisent que des enquêtes se poursuivent en vue de dénicher les présumés auteurs. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Dans le territoire de Beni, au nord Kivu, et FARDC ont déjoué une attaque rebelle dans la nuit d'hier mercredi à ce jeudi à Mutuanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori. Selon le lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, ces présumés rebelles ADEF ont tenté de faire incursion dans la cité afin de se livrer aux tueries des civils. C'est alors que les FARDC ont ouvert le feu en les poursuivant. Bilan, un présumé rebelle ADEF tué, deux autres capturés, dont un Ougandais et un Congolais. Au cours de ces affrontements qui ont duré plusieurs heures, deux autres jeunes Congolais pris en otage par l'ennemi ont été libérés des mains des rebelles. D'autres sources sur place parlent aussi d'un civil tué lors des échanges des tirs. Anthony Mwalushai, porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, explique, joint au téléphone par André Kitenge.
Cette nuit à Mutuanga, c'était aux alentours de 22h où l'ennemi ADF essayait de faire son incursion en pleine cité de Mutuanga. Alors nos éléments qui étaient aux aguets ont pu poursuivre l'ennemi et empêcher que l'ennemi entre dans la cité de Mutuanga. Donc nous avons repoussé l'ennemi. Il y a eu échange de tirs entre l'armée et l'ennemi. C'est à Katali, au village situé à plus ou moins 3 km de Mutuanga. Après les opérations de patrouille, nous avons découvert un corps ennemi Tadef abandonné par peur parce que l'ennemi ne supportait plus le feu de l'armée loyaliste. Alors nous avons récupéré ce corps. Il y a eu des Tadef capturés, un Ougandais et un Congolais. Alors il faut dire qu'à côté de ces corps retrouvés, il y a aussi les FADC ont dû sauver, n'est-ce pas, deux jeunes qui étaient kidnappés lors des accrochages à Mutuanga.
Probable reprise des cours en RDC dans un proche avenir. Le responsable du complexe scolaire Virunga dans la ville de Beni au Nord Kivu appelle le gouvernement à songer à l'évacuation des déplacés qui logent dans son école. Kasereka Kingungu Kazimoto dit avoir alerté sur la situation, mais jusque-là, aucune réaction de la part du gouvernement. Entre-temps, il fait mention d'un nombre important de pupitres cassés par ces déplacés qui les utilisent. Kasereka Kingungu Kazimoto a été joint au téléphone par Gulen Kasasia.
Jusque là, il n'y a pas aucun processus que nous avons pris. Alors que c'est bientôt la reprise des cours, nous ne savons pas comment les chasser. Nous attendons que le gouvernement fasse quelque chose pour les évacuer. Et depuis que nous serons obligés de chaque fois les mettre dehors de toute la journée, et peut-être de rentrer le soir. Alors que c'est un problème pour eux. Pour quelqu'un qui va passer toute la journée dehors, vraiment c'est très compliqué. Nous sommes en train de dire aux autorités de faire quelque chose pour eux, pour les évacuer des écoles, mais jusque là, il n'y a aucune réaction. Alors nous ne savons pas qu'est-ce que nous allons faire. Nous attendons que les cours débutent pour que peut-être on voit comment si nous ne savons pas si on va les chasser ou alors que ce soit des êtres humains aussi meurtris. Nous sommes en train de voir comment négocier les autorités pour qu'ils fassent quelque chose pour eux. Puisque jusque là, eux aussi n'ont pas de moyens. Même si quand on va les chasser de l'école, nous ne savons pas s'ils vont aller où, s'ils vont retourner encore dans les balcons où ils dormaient, ou bien s'ils vont rentrer là, chez eux, là qu'il y a les sécurités. Alors jusque là, nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut faire.
Rappelons que c'est un total de 62 ménages venus du secteur de Rwenzori qui logent dans ces complexes scolaires depuis le 31 décembre dernier. Au Kasaï oriental, hausse du prix de sacs de charbon de bois en Bujimaï. Le sac de 100 kilos de ces combustibles utilisés pour la cuisine coûte actuellement 30 à 32 000 francs congolais. Pendant qu'il s'est négocié il y a de cela 3 semaines à 23 000 francs congolais, les transporteurs de cette marchandise parlent de l'impraticabilité des routes. Des explications, Esther Ndalafina.
On ne parle pas encore des pénuries car le charbon de bois reste disponible sur le marché. Au point de vente du petit marché Djoka, le sac de ces combustibles coûte actuellement 30 000 francs congolais contre 23 000 vendus il y a de cela 3 semaines. Les femmes ménagères se plaignent de cette hausse. Jeanne Kanka.
Ceux qui viennent avec les braises, ce ne peut pas eux qui vendent ça. Il y a des mamans qu'on appelle si c'est des madères. Ils demandent encore quelque chose en disant que nous avons droit de boire de l'eau. Ça fait 30 000. Non, ça ne va pas.
Certains transporteurs de sacs de charbon de bois affirment que l'excès de pluie a engendré des intempéries qui ont affecté les productions ainsi que l'impraticabilité des routes pour l'acheminement de cette denrée vers Mbujimaï. Moïse Ngoy.
Les vélos tombent en panne à cause de l'abondance des pluies. Ça augmente souvent le prix au mois de janvier. Le février, les prix baissent.
D'autres, par contre, évoquent plutôt la hausse de la taxe vélo ainsi que la multiplicité des barrières. John Wamukala.
Les gens refusent d'apporter la ici à cause de la taxe vélo. On a augmenté la taxe vélo à 5 000 francs.
Suite à cette hausse, les consommateurs constatent auprès des détaillants de plusieurs quartiers une diminution de ces produits à la vente. Esther Ndalafina Mbujumaï, Radio Okapi.
L'Union européenne réaffirme sa volonté de poursuivre l'accompagnement au développement socio-économique, mais aussi aux efforts de la restauration de la paix et la sécurité au Nord Kivu. C'est ce qu'a réitéré l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaignier. C'était hier au cours de sa visite à Goma. Ce diplomate européen a échangé ce mercredi avec le gouverneur du Nord Kivu, Karline Zanzou Kassivita. Alors, nous allons revenir sur les sons du gouverneur, mais rappelons que Jean-Marc Châtaignier a dit que cet entretien leur a permis de se fixer sur la relance des travaux de construction de bâtiments de la province d'ici juin 2021. Ces travaux financés par l'Union européenne avaient connu une suspension de plusieurs mois à la suite des problèmes techniques logistiques, a-t-il souligné.
Actualité internationale.
Au Mali, le comité des suivis de l'accord d'Alger doit se réunir à Kidal ce jeudi 11 février. C'est la première fois depuis 2015, date de la signature de ce texte qui a mis un terme à la guerre civile. Que ce comité se retrouve dans cette ville du nord du Mali avec le CESAN, Bamako veut envoyer le signal d'une normalisation. Israël est le pays le plus avancé au monde dans sa campagne de vaccination face au coronavirus. Les effets commencent à se faire sentir dans le pays malgré la présence sur place du variant britannique. Près de 2/3 de la population israélienne a reçu au moins une dose de vaccin. Parmi eux, 9 personnes sur 10 âgées de plus de 60 ans, dont 80% ont même reçu les 2 doses nécessaires. Un article de Nature indépendant, un article de Nature reprenant une étude du ministère israélien de la Santé montre que les premiers effets se font sentir. Les courbes des nouveaux cas et des hospitalisations ont commencé à diminuer. Il faut néanmoins s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un effet du troisième confinement en vigueur dans le pays.
L'invité.
Notre invitée, c'est Madame Thérèse Isaïe Kirongozi, inventrice du robot roulage érigé dans certains carrefours routiers de Kinshasa et de la machine lave-main dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. À l'occasion de la Journée internationale des femmes et des filles des sciences célébrée le 11 février de cette année, Thérèse Isaïe Kirongozi appelle les jeunes filles à embrasser les filières des sciences et des technologies tout en exhortant le gouvernement à les y aider. Elle s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Madame Thérèse Isaïe Kirongozi, bonjour.
Bonjour, monsieur Honoré.
Le monde célèbre ce 11 février, comme chaque année, la Journée internationale des femmes et filles des sciences. Cette année, la journée a pour thème les femmes scientifiques à la pointe de la lutte contre le Covid-19. Vous êtes une femme, une ingénieure, et on vous connaît plus par le robot roulage qui est le produit de votre conception, de vos recherches. Mais vous avez aussi inventé un lave-main automatique dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Que pensez-vous du thème de cette journée cette année?
Je vous remercie beaucoup, monsieur le journaliste. Pour moi, c'est le moment d'où nous, les femmes scientifiques, donc c'est-à-dire que nous avons choisi de faire la filière du STEM, que je peux dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, de faire quand même un petit bilan annuel pour savoir qu'est-ce que nous avons apporté comme notre petite contribution à notre communauté, donc dans notre domaine choisi.
Par rapport à ce thème-là, quelle a été votre contribution dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 en RDC?
Ok, je sais qu'il y a beaucoup de femmes en sciences qui ont beaucoup travaillé, surtout pendant la période où on avait le confinement. Moi et mon équipe Women's Technology, notre contribution était d'abord des lave-mains automatiques que vous allez voir si vous êtes à l'aéroport de Ngili, dans quelques hôpitaux comme Clinique Universitaire Saint-Joseph et l'hôpital Sino-Congolais au niveau du quartier de Ngili et puis à l'hôpital Vigana. En dehors de ça, avec Raissa Malou et mon équipe Women's Technology, nous avons fabriqué un respirateur d'urgence mécanique que bientôt vous allez aussi trouver dans quelques hôpitaux locaux.
Vous sentez-vous soutenu par votre entourage, l'État congolais et d'autres partenaires publics ou privés?
Bon, c'est un peu difficile parce que le soutien, bon, ça dépend aussi de qu'est-ce que nous attendons par rapport à cela. Néanmoins, je trouve qu'au niveau du gouvernement, il y a un grand changement par rapport peut-être avec les gens qui étaient avant. Je donne un exemple. Le président actuel, Félix Tshisekedi, il tient beaucoup à s'engager lui-même pour nous soutenir des femmes scientifiques. D'ailleurs, si nous voyons des femmes que lui-même il appelle des femmes d'exception, on est au nombre de 26, mais vous remarquez, il y a au moins plus de 7 femmes de science, c'est-à-dire il y a moi, il y a Raissa Malou, il y a Mami Thio, pour ne pas citer tout le monde. Nous sommes tout autour du président pour analyser un peu comment nous pouvons booster les femmes dans le domaine du système. Mais nos attentes sont vraiment beaucoup et je peux dire aussi, d'abord, moi étant que mère ou étant qu'épouse, d'abord, ce qui compte pour moi, c'est le soutien de mon mari, le soutien de mes enfants, de ma famille, et de voir aussi comment ma communauté peut aussi arriver à nous soutenir. Voilà, donc nous avons vraiment besoin du soutien, si je peux dire, national.
Alors, parlons de la journée elle-même. Madame, elle a pour but de favoriser et d'accroître la participation des femmes et des filles dans les domaines scientifiques. Quel commentaire faites-vous de cet objectif de la journée?
Ok, statistiquement parlant, nous devons savoir qu'au moins 3% des femmes ou des jeunes filles acceptent de s'orienter au programme des STEM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, notre rôle est de promouvoir et être des modèles, donc nous, des femmes en sciences, être des modèles pour booster aussi des jeunes filles à suivre peut-être, en fait, nos pas. Mais le grand souci pour nous, en fait, c'est les gouvernements qui doivent plus promouvoir cette style de la nouvelle technologie, mettre des moyens pour booster plus de jeunes filles d'aller dans cette filière du STEM qu'on appelle sciences, technologies, ingénierie et mathématiques.
En ce qui vous concerne vous-même, madame, pensez-vous que c'est facile d'être à la fois une femme des sciences, une femme de ménage et une femme d'affaires?
Bon, c'est pas facile, je peux dire, mais je ne sais pas trop. Il n'y a pas une vie facile quelque part. Si je peux dire que, bon, moi, je fais de mon mieux, Dieu m'aide pour être une mère, pour être une épouse, pour être une femme d'affaires, pour être aussi ingénieure et puis faire des recherches. C'est-à-dire, mon secret, c'est d'abord la force de Dieu qui me donne et puis je sais comment donner du temps à chaque chose.
Madame Thérèse Isaïe Kirongozi, merci.
Je vous remercie, M. Nord.
Et c'est la fin de ce journal mis en nom de par Dieudonné Nyangassa, Élisée Tchikota à la coordonnée sous la supervision d'Alain Irong. Vous pouvez retrouver ce journal comme l'ensemble de nos informations sur www.radiocapi.net.